Welcome.
It don't mean a thing if it ain't got that swing.
L'épopée des musiques noires.
Joe Farmer, Nathalie Laporte.
Fellas, I'm ready to get up and do my thing.
Jigida, kani jigi misenya, omanyi kobena.
It's okay, you know, it's okay.
We moved around a lot when I was a kid, 'cause my daddy was the traveling type. The last thing in the world that he'd like to do was to watch that box and smoke a pipe. Yeah, we lived all over the city and the country, and that's the reason why I got itchy feet and I want to kiss this down goodbye. Only thing I'll miss, yeah, after I'm gone, is this very special woman I know. She got a lot of ways to get me to stay, even though I really want to go. Hey, she wild, that doxy, fine and foxy. But that's the reason why I'm kicking around and I want to kiss this town goodbye. So black pretty,
À l'écoute de ces quelques ornementations vocales, vous imaginez sûrement que nous allons recevoir un chanteur de jazz émérite. Si Kurt Elling est en effet un immense interprète, comme vous avez pu vous en rendre compte à l'instant, c'est l'instigateur de ce disque que nous accueillons aujourd'hui. Il est saxophoniste, issu d'une grande famille de la Nouvelle-Orléans. Nous avons le bonheur de retrouver le talentueux Branford Marsalis. Soyez le bienvenu. Welcome.
Great to see you.
Vous êtes parmi nous aujourd'hui pour nous présenter un album qui vous trottait dans la tête depuis quelque temps. Il s'agit de Upward Spiral, un disque qui fait appel à la maestria d'un impeccable chanteur, Kurt Elling. C'est la première fois que vous utilisez, que vous sollicitez un vocaliste pour l'un de vos albums ?
Yes.
Oui, et ça ne risque pas de se reproduire tout de suite.
Pourquoi maintenant ?
No particular reason. It wasn't about...
Il n'y a pas de raison particulière. L'idée de départ n'était pas d'enregistrer avec un chanteur quelconque, mais d'enregistrer avec Kurt Elling. Notre pianiste, Joe Calderazzo, m'avait demandé un jour « Si tu devais travailler avec un chanteur, lequel choisirais-tu » J'ai répondu immédiatement « Kurt Elling ». Après cette conversation, Joe s'est enfermé pendant 5 heures dans sa chambre d'hôtel pour regarder les prestations de Kurt Elling sur YouTube. Le lendemain matin, il m'a dit qu'il me confirmait que le meilleur chanteur était Kurt Elling et qu'il fallait impérativement enregistrer un album avec lui. J'ai immédiatement répondu « Ok, allons-y ».
Comment vous êtes-vous rencontré avec Kurt Elling ?
Well, the story is very funny. Clearly we knew of each other, but we didn't really hang out or anything. And
l'histoire est assez amusante. Nous nous connaissions l'un l'autre, mais nous ne nous étions jamais rencontrés. En 2013, j'étais membre du jury d'un concours de saxophone à la Monk Institute de Washington. J'étais en compagnie d'un ami saxophoniste, Paul Carr, et soudain il se retourne et me dit « Regarde, c'est Kurt Elling là-bas au bar ». Je suis donc allé à sa rencontre et je me suis permis de lui dire « C'est amusant, nous parlions de vous avec mon pianiste il y a juste un mois. Pourquoi ne pas enregistrer un disque ensemble ?» Sa réaction fut très enthousiaste. Ce serait avec plaisir. Je lui ai dit que je le tiendrai au courant, mais les années ont passé. Et en janvier 2015, je reçois un mail de sa part. « Hello Branford, vous ne m'aviez pas parlé d'enregistrer un disque en ma compagnie ?» J'ai répondu d'air chef « Oh oui, pardonnez-moi, j'étais occupé par d'autres activités musicales. » Et cette idée m'a échappé. Mais oui, contactez mon manager et organisons cela. Au mois de mars 2015, mon manager m'appelle et me dit « C'est bon, tu seras en studio avec Kurt Elling en décembre. » Et voilà comment ce disque a été réalisé. Nous nous sommes rencontrés une première fois à New York pour parler de musique et faire réellement connaissance. On sait rapidement si deux artistes peuvent s'entendre, car nous partageons un vocabulaire musical spécifique. Souvent, il n'est pas nécessaire de répéter longuement. On se retrouve en studio et on joue. Et c'est un peu la manière dont tout cela s'est passé. Nous avons donné 8 concerts ensemble dans un club de la Nouvelle-Orléans, et juste après, nous avons enregistré ce disque.
We did 8 shows at a club in New Orleans, and then we did the record.
Qu'est-ce que vous aimez dans la voix de Kurt Elling?
Well, his phrasing, he actually sounds like he's listened to a lot of jazz.
Tout d'abord, j'aime son phrasé. On sait immédiatement qu'il a écouté beaucoup de jazz durant sa vie, et pas seulement des chanteurs de jazz. Sa voix est très flexible. Il peut reproduire une humeur joyeuse comme une humeur plus morose, rien qu'en jouant sur les intonations de sa voix. Je trouve cela très impressionnant.
He's able to shape his voice to match what is required for the song, and that's the most impressive thing.
Est-ce que le fait d'enregistrer avec un chanteur vous impose de jouer différemment? Est-ce que ça crée des contraintes, en quelque sorte?
Well, of course, yeah. When a new person is involved, everyone has to change.
Évidemment, quand vous intégrez un nouveau membre dans un groupe, chacun doit s'adapter. Nos solos doivent être plus brefs, car avec un chanteur, l'articulation d'une composition est totalement différente. Nous ne pouvons pas jouer aussi intensément, et même si la voix de Kurt Elling est très malléable, il faut malgré tout prendre en compte la nécessité de procéder à quelques aménagements. Justin Faulkner, le batteur, Eric Revis, le bassiste, et Joey Calderazzo, le pianiste, sont d'incroyables musiciens. Ils ont su se montrer à la hauteur.
Donc vous n'aviez pas besoin de vous apprivoiser l'un l'autre?
Not really.
Pas vraiment.
I think everybody in the group has listened to.
Nous avons tous suffisamment écouté les chanteurs de jazz pour savoir comment nous comporter avec Kurt Elling.
And then we make sure we don't do those things.
Donc votre complicité est née finalement instantanément.
Yeah, well, there's a shared vocabulary. That makes a huge difference.
Absolument. Nous partageons le même langage musical. C'est ce qui fait la différence. Quand nous avons enregistré Doxy de Sonny Rollins, c'était juste un clin d'œil à la manière dont Kurt Elling improvisait sur ce titre pendant les concerts que nous avions donnés avant l'enregistrement. J'étais épaté par le fait qu'il ait inventé sur scène des paroles pour ce titre, à l'origine instrumental. Aussitôt, je lui ai dit, il faudra qu'on enregistre ça sur disque. Nous avons juste choisi la tonalité et nous l'avons enregistré en la bémol majeur. Et voilà, c'était aussi simple que cela.
Vous avez en tout cas respecté la grande tradition du jazz qui revitalise les grands standards de la musique populaire, de Chris Whitley à Antonio Carlos Jobim, ou encore, vous le disiez, Billie Holiday à travers le classique signé à l'origine Frank Sinatra, « I'm a fool to want you ».
I'm a fool to want you. I'm a fool to want you. To want a love that can't be true. A love that's there for others too. I'm a fool to hold you. Such a fool to hold you. To seek a kiss, not mine alone. To share a kiss, the devil has known. Time and time again, I said I'd leave you. Again, I went away.
I'm a fool to want you, une nouvelle version de ce classique de 1951 remis au goût du jour par Kurt Elling et Branford Marsalis, notre invité dans l'épopée. Est-ce qu'il vous a fallu répéter intensément pour parvenir à ce dialogue parfait voix-sax?
Non,
nous n'avons pas répété. Il y a une chose que j'ai apprise quand j'étais plus jeune, alors que j'accompagnais une chanteuse de jazz, c'est qu'il faut écouter et s'adapter. Moi, à l'époque, je jouais du rhythm and blues. Et cette chanteuse s'est retournée vers moi pendant le concert pour me dire « Ne joue plus jamais ce type de musique en ma compagnie. Tu es membre de mon orchestre et c'est moi qui décide de l'univers sonore dans lequel je veux évoluer. » Je suis allé voir mon père et je lui racontais ce qui s'était passé. Il a rigolé. Et puis, il m'a donné quelques conseils. Quand tu te retrouves dans ce genre de situation, essaie de jouer avec les tierces.
Les tierces.
Les tierces.
Car le chanteur est toujours dans la lumière et ses musiciens sont secondaires. Il faut que tu acceptes cela. Si tu t'y refuses, ne travaille pas avec des chanteurs. Par conséquent, durant l'enregistrement avec Kurt Elling, je suis resté à ma place et je n'ai fait que suivre ses harmonies vocales. Il faut toujours se mettre d'accord au préalable et savoir qui sera le leader dans l'orchestre. Il faut que ce soit un choix logique. Si vous travaillez avec un chanteur, le chanteur est le leader. Je n'ai même pas eu besoin d'avoir cette conversation avec Kurt Elling, car j'avais accepté, de fait, que je suivrais ses choix. Je n'ai fait que suivre ses directives et accompagner ses idées.
Branford Marsalis, vous êtes issu d'une famille incroyable originaire de la Nouvelle-Orléans. Vous êtes tous des maestros, de Ellis Marsalis, le père, à Jason Marsalis, le benjamin, sans oublier Del Fayo, Winton. Vous êtes tous en quelque sorte les gardiens d'un patrimoine. Est-ce que sortir un album comme celui-ci, ou enregistré dans la Grace Cathedral de San Francisco, où Duke Ellington avait écrit l'histoire en 1965, n'est pas une manière de préserver un héritage ?
Non. No, I don't even think of myself as protecting the heritage.
Non, je ne pense même pas à l'idée de préserver un patrimoine. J'ai commencé par écouter du rhythm and blues quand j'étais gamin. Puis, je me suis mis au jazz. Je voulais juste enregistrer des disques de jazz qui sonnent comme des disques de jazz. C'est aussi simple que cela. Et je fais de même dans l'univers de la musique classique. Je ne travestis pas par des choix de notes précises l'identité d'une musique. De toute façon, ça ne marcherait pas. Il y a tellement d'exemples de musiciens qui prétendent jouer du jazz alors que leurs disques ne sonnent pas jazz. Je suis d'ailleurs étonné qu'ils continuent à se considérer jazzmen. Le simple fait qu'ils gagnent de l'argent en jouant du jazz prouve qu'il ne s'agit pas de jazz. J'ai grandi en écoutant cette musique et j'ai progressivement appris à en reconnaître la sonorité. Tous les musiciens qui composent mon groupe veulent, comme moi, proposer une musique qui soit profondément jazz. D'une certaine manière, j'aimerais que les pionniers du jazz puissent, de là-haut, nous dire que nous faisons réellement du jazz et nous félicitent. Je pense que cela leur tenait à cœur de voir de jeunes musiciens suivre leur exemple. On pourrait croire que nous perpétuons la tradition, mais nous ne faisons que jouer du jazz quand tant de musiciens le prétendent. J'entends tellement ces derniers temps le mot « nouveauté ». La nouveauté ne signifie pas pour autant la qualité. Une musique peut être neuve, mais je préfère la qualité à la nouveauté. Le jazz ne survivra que si les musiciens qui le jouent l'aiment véritablement.
Est-ce que ça veut dire que l'art du jazz est en danger ?
Pas vraiment. Je vois apparaître de jeunes musiciens à New York qui donnent des concerts acoustiques. Je pense notamment à quelques bassistes plutôt percussifs qui, sans le savoir, font écho aux meilleurs bassistes des années 40. Il y aura toujours de jeunes musiciens capables de jouer avec sincérité. Et puis, il y aura toujours des gens mal intentionnés, prêts à utiliser le jazz pour briller dans le feu des projecteurs. Le mot à la mode actuellement, c'est « vecteur d'expression ». Certains jeunes opportunistes disent utiliser une chanson comme vecteur d'expression à leur improvisation. La pire chose qui soit arrivée à l'histoire du jazz, c'est la mauvaise interprétation du mot « improvisation ». Ça commençait dans les années 70. Tout le monde disait que le jazz reposait sur l'improvisation. C'est inexact. La musique baroque française du XVIIe siècle était improvisée. De nombreuses cultures reposent sur l'improvisation. L'improvisation musicale est née il y a plusieurs milliers d'années. Le jazz n'a pas inventé l'improvisation, mais a inventé le swing et un rythme spécifique. Voilà ce que l'on peut retenir de l'histoire du jazz. Malheureusement, les jazzmen d'aujourd'hui n'ont aucune conscience de cette réalité-là. Ils se contentent de dire qu'ils sont jazzmen, car ils improvisent. Que voulez-vous répondre à cela ? Je ne veux pas entrer dans ce genre de discussion stérile. Je me contente de jouer la musique. C'est la meilleure réponse que je peux leur donner. Le jazz n'est donc pas en danger. Je discutais récemment avec un critique musical qui m'affirmait que le jazz allait mourir. Il en était convaincu. Et malgré mes efforts pour le contredire, il continuait à marteler que le jazz était mort. Je me suis alors amusé à le tester pour connaître ses réelles connaissances musicales. Je lui ai dit « Citez-moi 10 batteurs que vous considérez exceptionnels. » Il a mentionné Max Roach, Elvin Jones, Tony Williams, Roy Haynes, et s'est arrêté là. Il n'était pas fichu de citer 10 grands batteurs. Comment pouvais-je avoir une discussion avec un personnage si peu éclairé? Il prétendait qu'il n'y avait plus aucune innovation dans le jazz, alors qu'il était incapable de citer 10 instrumentistes novateurs. Je lui ai juste dit qu'il fallait d'abord penser à la qualité des musiciens plutôt qu'à la notion de nouveauté. J'ai également appris au fil des années que tout musicien jugé novateur est d'abord renié par ses pairs. Quand Beethoven a écrit ses premières symphonies, tout le monde le détestait. Quand Mozart a écrit ses premières sonates, tout le monde l'a détesté. Idem pour Jean-Sébastien Bach ou Duke Ellington. On ne criait pas au génie, on disait qu'ils écrivaient des compositions étranges, incompréhensibles. Quand j'entends des gens me dire que tel ou tel musicien est un génie, je réponds généralement que si c'était le cas, il serait détesté par ses contemporains. J'ai donné récemment à mes étudiants un ouvrage de Nicolas Slonimsky intitulé « Le lexique des invectives musicales ». Ce livre regroupe les déclarations de critiques musicaux qui, en leur temps, considéraient les génies comme de piètres musiciens. On lit notamment cette phrase incroyable concernant la symphonie numéro 5 de Beethoven. Quand on écoute cette œuvre, on comprend que Beethoven était sourd. Idem pour Gustave Mahler. L'intérêt d'assister à une première, c'est qu'il n'y aura pas de deuxième chance. Ou encore, c'est un excellent chef d'orchestre, mais quel piètre compositeur. En lisant toutes ces déclarations acerbes, je me dis que, avec un peu de chance, mes contemporains détesteront ma musique. C'est amusant, nous voulons tous être aimés, alors que les génies ont été détestés. Personnellement, je veux juste me contenter de jouer ma musique sans trop m'inquiéter des critiques ou des avis de mes contemporains. Il suffit d'écouter Kurt Elling pour se dire que le jazz est entre de bonnes mains. Prenez le batteur Jeff Ten Watts, le bassiste Bob Hurst ou le pianiste Fred Hirsch. Le jazz survivra.
Fred Hirsch, jazz will be all right.
Parlons un petit peu de Kelvin Forbes. Est-ce que le poème de Kelvin Forbes que vous avez mis en musique sur votre nouvel album n'est pas une allégorie justement à la tradition, à l'histoire, peut-être même à la nostalgie dans le bon sens du terme?
I have no idea. No. It wasn't my idea, it was Kurt's idea.
Je n'en ai aucune idée. En fait, ce n'est pas moi qui ai eu cette idée-là, c'est Kurt Elling qui l'a voulu. Nous étions en train d'enregistrer cet album et à chaque fois que nous prenions une pause, je le voyais scotché à son téléphone portable. Ça durait depuis 2 jours. Et à un moment donné, je me suis permis de lui poser la question. Pourquoi passes-tu tant de temps sur ton téléphone? Il m'a dit, je cherche un poème à mettre en musique. Que penses-tu de celui-là? Et puis, il s'est ravisé. Je l'ai alors encouragé à trouver le bon texte, car notre séance d'enregistrement touchait à sa fin. Et puis il a trouvé ce poème de Calvin Forbes, intitulé « Mama Said ». Il m'a demandé ce que j'en pensais, et je lui ai répondu « Si tu aimes ce texte, enregistrons-le ». Il a reproduit le texte sur une feuille de papier, et en une prise, c'était en boîte.
Écoutons ces mots choisis, mis en musique par Branford Marsalis et édits par Kurt Elling.
Slice I ate. I want it back. Those crumbs I swept up. I'd like my share again. I can still taste it like it was. The memory by itself is delicious. Each bite was a small miracle.
Mama Said, un poème de Calvin Forbes, magnifié par Kurt Elling et Branford Marsalis. Et vous cachez quelques petites choses à l'intérieur de ce titre. Il faut vraiment avoir l'oreille pour les déceler.
Oui, à un moment donné dans ce poème, il dit la phrase « I remember it was ». Pour un anglo-saxon, le mot suivant ne peut être que « yesterday ». J'ai donc eu le réflexe de jouer la mélodie des Beatles « yesterday ».
So he says, I remember it like it was, so I played « yesterday ». And then I distorted it from there.
Personne n'a décelé ce petit clin d'œil, mais ce n'est pas plus mal.
Vous qui avez travaillé avec des artistes de toutes sortes, de Sting à Guru en passant par Angélique Kidjo ou Miles Davis, est-ce que vous considérez que le jazz reste une musique engagée comme elle a pu l'être dans les années 60 ou 70?
It really wasn't a militant music. The Freedom Now Suite.
Honnêtement, je n'ai jamais considéré que le jazz était une musique militante. L'album de Max Roach, Freedom Now Suite, est peut-être militant, mais la musique elle-même ne l'était pas. Max Roach, en 1965, est le même personnage qui accompagnait Clifford Brown en 1955. Diriez-vous qu'il était déjà un militant ? Quand on joue une musique instrumentale, on peut lui donner tous les qualificatifs possibles. J'aurais très bien pu intituler cet album « Black Lives Matter » et passer pour un activiste politique. Seuls les titres donnent une résonance particulière à une œuvre, mais la musique reste la musique. Certes, les artistes ont le droit d'avoir des opinions politiques, mais leur musique ne reflète pas nécessairement leurs convictions. Quand on est sur scène ou en studio, on laisse nos convictions en coulisses.
But when it's time to play music, the music is the thing. Like the politics gets pushed aside.
Quoi qu'il en soit, en écoutant Upward Spiral, votre nouvel album, j'ai ressenti quand même une volonté de préserver un répertoire, une humeur, un savoir. Est-ce que je me trompe?
Yes and no. None of us.
Oui et non. Aucun de nous ne pense à la préservation d'un patrimoine lorsque nous sommes en studio. Nous ne pensons pas à la postérité. Nous pensons à la vitalité de notre musique. Nous ne réfléchissons pas comme une personne de 70 ans en nous disant « il faut absolument laisser une trace de notre passage sur Terre ». Notre envie première est tout simplement de se retrouver en studio pour jouer la musique que nous aimons, point final. On se fait juste plaisir, et c'est ce que vous pouvez entendre sur cet album. Joey Calderazzo et moi-même donnons des cours dans diverses universités de Caroline du Nord, et nous répétons sans cesse à nos étudiants « Ton jeu est excellent, mais je n'entends pas la sonorité du jazz ». Et en général, ils acquiescent et comprennent ce que nous attendons d'eux. Je reprends souvent cette formule à mon compte « Le jazz doit sonner comme du jazz ». Vous reconnaissez immédiatement le son du rock'n'roll. Il faut donc savoir identifier immédiatement le son du jazz. Voilà pourquoi nous célébrons cette culture sans perdre notre temps à critiquer. Si nous ne sommes pas d'accord avec l'option artistique d'un de nos contemporains, cela ne nous empêchera pas de continuer à faire du jazz. Pour autant, nous ne cherchons pas à préserver un patrimoine. Dans une dizaine d'albums, quand je serai très vieux, peut-être commencerai-je à me poser la question. Je n'ai que 55 ans et je n'en suis pas là aujourd'hui. Je le répète, nous n'essayons pas de préserver un héritage ni de transmettre un message aux jeunes générations. On se contente de jouer. C'est en écoutant mes aînés et en jouant intensément que j'ai su reconnaître le son du jazz. Quand nous avons débuté avec Winton, nous n'avions aucune idée de ce qu'était véritablement le jazz. Beaucoup de fans à l'époque nous disaient que nous avions une identité jazz. Mais je sais aujourd'hui que ce n'était pas le cas. Par contre, ce nouvel album avec Kurt Elling, qui paraît très simple, est profondément jazz. Je n'aurais pas pu réaliser ce disque 15 ans plus tôt, car je n'avais pas assez de connaissances pour pouvoir être aussi simple et serein dans mon interprétation. Si nous l'avions enregistré jadis, ce disque aurait été totalement différent. Jouer simplement est finalement un exercice assez difficile. Il y a tellement de musiciens patients qui ne prendront jamais le temps d'acquérir cette forme de plénitude musicale. Je ne leur reproche rien, mais je dois reconnaître être assez fier du niveau que nous avons atteint aujourd'hui.
Vous le disiez, c'est difficile de jouer simple. Voici d'ailleurs la preuve de cette assertion dans cette œuvre d'Antonio Carlos Jobim.
Essa tinha de ser com você, havia de ser pra você, se não era mais uma dor, se não, não seria o amor, aquele que o mundo não vê, o amor que chegou para dar, o que ninguém deu pra você. Amor que chegou para dar, o que ninguém
για ζου, μη δείσαι αμοράχνες για ζου, μη δείσαι εγκοντρά μην για πάεις, βοσέ και εβουνίτα τζι πάεις. Se ao menos pudesse saber que eu sempre fui só de você, você sempre foi só de mim.
Comme je ne parle pas un mot de portugais, je ne me risquerai pas à vous donner le titre de cette composition signée Antonio Carlos Jobim et réhabilitée par Kurt Elling et Branford Marsalis, que je remercie d'être passé nous voir 10 ans après notre dernière rencontre dans l'épopée.
Thank you. Merci beaucoup.
Je signale que vous serez les 27 et 28 juin prochains au New Morning à Paris, que vous serez en juillet au Danemark, en Allemagne, aux Pays-Bas, en Italie, en Turquie, en Norvège, en Espagne, au Portugal, etc., etc. En d'autres mots, une très longue tournée européenne.
But it's nice to be in Europe.
Oui, mais j'adore me produire en Europe. C'est beaucoup plus drôle que de jouer au Texas. Le Texas, franchement, très peu pour moi.
Texas, come on. No, thank you.
Paris.
Oui.
Oui.
Yes.
Merci, Branford Marsalis.
Thank you, brother.
La semaine prochaine, nous évoquerons le Montreux Jazz Festival qui fête cette année son demi-siècle avec une affiche épatante de Quincy Jones à Angélique Kidjo, en passant par Al Jarreau, Buddy Guy ou Carlos Santana. Nous accueillerons pour l'occasion le patron du festival, Mathieu Jaton, et Arnaud Robert, auteur avec Salomé Kinner d'un livre d'anthologie intitulé 50 Summers of Music, paru aux éditions Textuelles et qui raconte l'épopée du Montreux Jazz Festival. L'émission du jour a été réalisée par un jazzman qui s'ignore, Jérémy Besset, avec dans les cœurs, Nathalie Laporte. Passez une bonne semaine, on se retrouve dans 8 jours. Dans 30 secondes, le journal.